à toutes et à tous, bienvenue dans Au cœur des RH sur IDFM Radio, votre rendez-vous consacré à l'emploi, aux ressources humaines, à la formation, aux compétences et à la qualité de vie au travail. Je suis Pauline Stamper et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui aux côtés d'Emmanuel Pignon et d'Agnès Silleret, ainsi que Jacques-Alexandre Esnard, notre invité.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir et merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Chaque semaine, nous allons décrypter l'actualité de l'emploi et des ressources humaines, donner la parole aux professionnels du terrain et partager des conseils concrets pour accompagner les salariés, les managers, les dirigeants, les demandeurs d'emploi et tous ceux qui s'intéressent au monde du travail. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder un sujet qui concerne aussi bien les entreprises que les candidats, à savoir le recrutement. Pourquoi certaines entreprises peinent-elles à recruter ? Quels sont les secteurs en tension ? Comment attirer les talents et comment, côté candidat, mettre toutes les chances de son côté? Avant de poursuivre, quelques mots pour nous présenter. Je suis dirigeante d'un organisme de formation et formatrice. J'accompagne les entreprises et les professionnels sur les questions de développement des compétences et d'évolution des parcours.
Je suis Emmanuel Pignon, DRH externalisé. Mon métier, c'est d'apporter des solutions concrètes aux dirigeants et de placer l'humain au cœur de la performance de l'entreprise.
Et moi, Agnès Silleret, j'ai un parcours de DRH et de psychologue clinicienne du travail et des organisations et j'accompagne les entreprises et les salariés sur les sujets liés à la qualité de vie et aux conditions de travail, les pratiques RH et l'accompagnement des parcours professionnels.
Et je suis Jacques-Alexandre Esnard, donc je fais partie d'un réseau qui s'appelle le Mercato de l'Emploi, réseau de recruteurs indépendants sur toute la France.
Trois regards complémentaires, ainsi que celui de notre invité, pour décrypter avec vous les grandes évolutions du monde du travail.
Aujourd'hui, le recrutement est au cœur des préoccupations des entreprises. D'un côté, des employeurs qui peinent à trouver des bonnes compétences, de l'autre, des candidats qui ont parfois du mal à décrocher un emploi. Alors, où se situe le décalage ?
Et derrière le recrutement se cachent aussi des questions de fidélisation, d'engagement des collaborateurs, de qualité de vie au travail et surtout d'attractivité des entreprises.
Au programme de cette émission, nous reviendrons tout d'abord sur quelques actualités liées à l'emploi, à la formation et aux ressources humaines.
Puis, nous consacrerons un dossier sur l'alternance, un dispositif qui permet aux entreprises de préparer leur recrutement tout en favorisant l'insertion professionnelle et la transmission des compétences.
Nous parlerons également des enjeux de fidélisation des collaborateurs avec un focus sur les chiffres récents de l'absentéisme, des sujets étroitement liés aux difficultés de recrutement et de la souffrance au travail que rencontrent aujourd'hui de nombreuses organisations.
Dans notre boîte à outils, nous partagerons des conseils pratiques pour optimiser son CV et son profil LinkedIn, deux leviers devenus aujourd'hui incontournables dans une recherche d'emploi.
Nous donnerons également la parole à un professionnel du recrutement, Jacques-Alexandre, qui partagera son expérience de terrain, son regard sur les difficultés actuelles et les solutions qu'il met en œuvre pour accompagner les entreprises et les candidats.
Et comme chaque semaine, nous terminerons avec une astuce compétence simple à mettre en œuvre, ainsi qu'une sélection des ressources et des événements utiles. Avant de commencer, un chiffre qui interpelle. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises déclarent rencontrer des difficultés de recrutement, parfois même sur des métiers traditionnellement attractifs, une situation qui interroge à la fois les pratiques de recrutement, les attentes des candidats et l'évolution du monde du travail. Alors aujourd'hui, comment attirer les talents ? Comment se démarquer lorsqu'on recherche un emploi ? Comment recruter efficacement et surtout fidéliser ses collaborateurs ? C'est tout l'enjeu de notre émission d'aujourd'hui.
IDFM Radio, 98 FM.
Nous commençons avec les actualités formation et emploi. Trois sujets aujourd'hui, la rupture conventionnelle, l'alternance et l'intelligence artificielle dans le recrutement.
La rupture conventionnelle et son impact sur l'assurance chômage, vaste sujet. 515 000, c'est le nombre de ruptures conventionnelles signées en France en 2024, un véritable record. Et depuis ce matin, une loi votée le 11 juin change ce que ce chiffre représente pour des centaines de milliers de salariés. Le filet de sécurité qui accompagnait la rupture conventionnelle vient de se rétrécir très sérieusement. Petit rappel, la rupture conventionnelle, c'est une séparation à l'amiable entre un employeur et un salarié en CDI. Ni démission, ni licenciement, un accord homologué, une indemnité et jusqu'ici des droits chômage équivalents à ceux d'un licenciement. Créé en 2008, son usage a plus que doublé en 15 ans parce qu'elle offrait une sortie confortable et digne. C'est précisément ce filet que la réforme vient de réduire. La loi ne touche ni aux conditions de signature, ni au montant de l'indemnité. Elle cible uniquement la durée d'indemnisation chômage qui suit. Pour les moins de 55 ans, on passe de 18 à 15 mois. Pour les 50-56 ans, de 22 mois et demi à 20 mois et demi. Et enfin, pour les 57 ans et plus, c'est le plus rude. De 27 à 20 mois et demi, presque 6 mois et demi de droits en moins, alors qu'un licenciement, lui, continue d'ouvrir des droits aux 27 mois. Même personne, même ancienneté, juste un mode de rupture différent. Et un point important à avoir en tête à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas la date de signature de l'accord qui compte, c'est la date de fin effective de votre contrat. Un accord signé cet été, mais dont le contrat se termine après aujourd'hui, bascule déjà dans les règles nouvelles. Prenons un cas. Marc, 52 ans, cadre en PME, en arrêt maladie depuis 18 mois après un burn-out sévère. Son médecin dit stop. Son employeur lui propose une rupture conventionnelle plutôt qu'un licenciement compliqué. Ce n'est pas vraiment un choix, c'est une sortie de secours. Hier encore, il aurait compté sur 18 mois pour se reconstruire. Aujourd'hui, il n'a plus que 13 mois et demi. 4 mois et demi de moins pour quelqu'un qui n'est pas en état de reprendre le travail tout de suite. Pour les entreprises, la rupture conventionnelle risque de perdre son attractivité avec des négociations plus tendues et peut-être un retour en force des licenciements. Et avec tout ce que ça implique en coûts humains et juridiques. Et sur le fond, ce sont souvent les salariés les moins mobiles, bien évidemment seniors, personnes épuisées, profils en reconversion qui l'utilisaient comme tremplin. Réduire leur couverture, c'est réduire le temps dont ils disposent pour rebondir. La vraie question n'est pas « faut-il des économies sur l'assurance chômage ?» mais « qui les fait et à quel prix humain ?» La loi est en vigueur depuis ce matin. Si vous êtes en cours de négociation, la question à vous poser n'est plus « ai-je signé à temps ?» mais « quelle est la date de fin effective de mon contrat ?» Et pour les professionnels RH, il va falloir revoir vos outils de gestion des fins de parcours parce que la rupture conventionnelle coûtera désormais plus cher à vos collaborateurs.
Emmanuel, est-ce que tu constates déjà des interrogations de la part des entreprises ?
C'est un sujet qui revient régulièrement dans mes échanges avec les dirigeants. Beaucoup pensent que la rupture conventionnelle devient plus difficile à mettre en œuvre. En réalité, ce qui évolue, ce sont surtout les conditions pour bénéficier de l'assurance chômage. La rupture conventionnelle reste un dispositif qui permet de mettre fin à un contrat de travail d'un commun accord. En revanche, elle ne doit jamais être utilisée comme une solution de facilité. Chaque situation est différente et mérite d'être étudiée avec attention, en tenant compte à la fois des intérêts de l'entreprise et de ceux du salarié.
Et toi, Pauline, penses-tu que dans certains cas, notamment les personnes en souffrance, cela risque de basculer vers une augmentation de l'absentéisme qui atteint déjà des taux records ?
En effet, c'est à craindre. L'absentéisme sous la forme d'arrêt de travail longue durée s'amplifie notamment chez les jeunes et pour les seniors, nous risquons d'assister à un retour en force des licenciements. Nous allons marquer une courte pause musicale et nous nous retrouvons dans quelques instants dans l'émission Au cœur des RH sur IDFM Radio.
Peu importe si le chien des voisins a pissé dans mon jardin. Ouah-ah-ah-ah. Peu importe si je mets trop fort la musique, que toi t'appelles les flics. Ouah-ah-ah-ah. Pas ma faute si tu prends tout de travers, si on se tape sur les nerfs, c'est qu'on a le cœur en colère. Peu importe si t'envies la vie des autres, les autres envient la tienne. Wow, wow, wow. Les choix, les avis des autres, tout qui lui valait la peine. Wow, 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 wow.
hommes et le cœur à la guerre. Quelle la guerre à nos portes? Pourquoi viser si loin quand pousse dans nos jardins des fleurs qu'on n'a pas vues? Dis-moi, qu'est-ce que les autres ont de plus? Peu importe si t'envies la vie des autres, les autres envient la tienne.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Vous êtes dans l'émission Au cœur des RH sur IDFM Radio. Nous sommes en compagnie de Emmanuel Pignon, Agnès Silré et notre invité, Jacques Alexandre. Nous allons parler maintenant de l'alternance. Emmanuel, peux-tu nous en dire plus ?
Oui, bien sûr. On entend souvent les dirigeants dire « je n'arrive plus à recruter ». Pourtant, il existe une solution qui permet de préparer les recrutements de demain tout en formant les talents, l'alternance. C'est un sujet qui concerne tout le monde, les entreprises, les jeunes qui souhaitent apprendre un métier, mais aussi les personnes en reconversion professionnelle. Et contrairement à ce que l'on pense, l'alternance ne se résume pas à une aide financière. C'est avant tout un investissement sur l'avenir. Tout d'abord, l'alternance, c'est quoi exactement ? L'alternance repose principalement sur deux types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Que l'on parle d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, le principe est le même, apprendre un métier tout en travaillant et en préparant une qualification. Pauline, toi qui accompagnes les entreprises et les apprenants dans les parcours de formation, est-ce que l'alternance reste aujourd'hui une voie de formation attractive ? Et est-ce que tu constates toujours le même engouement de la part des jeunes et des entreprises ?
Merci Emmanuel. Alors oui, l'alternance est toujours un sujet aujourd'hui, notamment dans le milieu de la formation qui est fortement plébiscité par les entreprises. Sauf que depuis peu, on se heurte à un mur, c'est-à-dire que les modes de financement sont réduits pour les entreprises et que beaucoup de jeunes peinent à trouver des entreprises pour les accompagner dans leur démarche. Donc certes, ça reste aujourd'hui une voie de formation attractive, notamment pour les compétences qu'ils vont acquérir. Par contre, effectivement, de moins en moins d'entreprises ont la possibilité et le budget d'accompagner ou d'accueillir des alternants, ce qui aujourd'hui peut bloquer beaucoup d'écoles, puisque beaucoup d'alternants commencent leur année et à la fin du premier trimestre, on se retrouve avec presque un tiers des élèves qui sont obligés d'abandonner leur parcours scolaire, faute de ne pas avoir d'entreprise d'accueil.
Merci Pauline, c'est en effet le cas. Du côté des entreprises et notamment des TPE et PME, l'alternance représente de nombreux avantages. Elle permet de préparer les recrutements de demain, de transmettre un savoir-faire et de former un futur collaborateur aux méthodes de l'entreprise. Je le dis souvent aux dirigeants que j'accompagne, un alternant n'est pas une main-d'œuvre moins coûteuse, c'est peut-être votre futur salarié. Et je le constate régulièrement sur le terrain. Plusieurs entreprises que j'accompagne comptent aujourd'hui parmi leurs collaborateurs d'anciens alternants. Mais il y a une condition, il faut préparer leur arrivée. Je pense à une PME que j'ai accompagnée. Le premier jour, l'alternant est arrivé super motivé, mais personne ne l'attendait vraiment. Son poste n'était pas prêt, aucun parcours d'intégration n'avait été prévu et l'équipe n'était même pas au courant de son arrivée. Quelques semaines plus tard, évidemment, il quittait l'entreprise. Non pas par manque de compétences, mais parce que son intégration avait été complètement négligée. Cette expérience rappelle une chose essentielle. Recruter un alternant est une chose, réussir son intégration en est une autre. N'est-ce pas Agnès ? Toi qui es psychologue du travail et des RH, quel impact peut avoir une nouvelle intégration sur un jeune qui débute dans sa vie professionnelle ?
Il est clair qu'une mauvaise intégration laisse souvent une empreinte durable, surtout en début de carrière. Le jeune salarié n'a pas encore les repères pour relativiser. Il se sent livré à lui-même ou mal accompagné et il va vite douter de sa légitimité. Alors que le problème ne vient pas de lui, mais plutôt de l'organisation. Et ça se traduit par l'anxiété, d'où l'importance d'intégrer les alternants dans tous les process d'onboarding, comme tout salarié recruté en CDI. Sinon, dès le départ, dès les premiers mois, il y a vraiment un sentiment de perte de compétences et de démotivation. Donc l'importance aussi, ce que j'avais souvent mis en place, c'est de leur désigner un mentor, quelqu'un d'autre que son hiérarchique, pour qu'il puisse parler librement, sans enjeu d'évaluation, et de prévoir avec lui des points réguliers dès les premières semaines.
Merci Agnès. Effectivement, l'intégration est une étape essentielle. Et cela nous amène justement aux obligations de l'employeur qui sont parfois méconnues. Accueillir un alternant, ce n'est pas seulement signer un contrat, c'est lui désigner un tuteur, un mentor, l'accompagner, l'intégrer à l'équipe et lui donner des moyens de réussir. Parce qu'un alternant bien accompagné aura beaucoup plus envie de rester dans l'entreprise. Dis-moi Jacques-Alexandre, dans les recrutements que tu réalises, est-ce que les entreprises te parlent de l'alternance comme un véritable levier de recrutement ou est-ce encore un dispositif qu'elles hésitent à utiliser ?
C'est difficile de faire une généralité. Tout d'abord, moi, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur le onboarding. C'est pas que pour les alternants. Malheureusement, on le voit aussi sur des entreprises qui n'intègrent très mal des nouveaux salariés et qui font capoter un recrutement. Donc déjà, c'est une réalité qui est au-delà de l'alternance. Après, sur la question de l'alternance, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises, pour eux, c'est un pari. Comme tout recrutement, mais un pari encore plus. Et c'est un pari sur du temps long. Et la difficulté, il me semble, sur certaines entreprises, c'est d'avoir cette visibilité sur un temps long. Il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés, sur ce qu'on peut faire. Et un alternant, c'est 2 ans, c'est 3 ans. Enfin voilà, c'est vraiment un temps long pour quelqu'un soit opérationnel. Et l'écueil que vous signalez, Pauline, c'était, non, c'est pas de la main d'œuvre pas chère. C'est des gens qu'on doit aussi former, accompagner. Et voilà, malheureusement, des fois, ce temps long, les entreprises ne l'ont pas ou n'ont pas envie de le prendre parce que difficile pour eux d'avoir une visibilité sur le long terme.
Merci beaucoup, Jacques-Alexandre. Depuis mars 2026, les aides à l'embauche en alternance ont évolué. Elles existent toujours, mais elles ont désormais davantage ciblé selon la taille de l'entreprise et le niveau de formation préparé. Depuis cette évolution, il y a une question qui revient très souvent lorsque j'échange avec les dirigeants. Combien vais-je toucher comme aide ? Mais c'est une question qui est légitime, mais je leur réponds souvent que la vraie question n'est pas le montant de l'aide, mais le collaborateur que vous êtes en train de former. Je reviens vers toi, Jacques-Alexandre. Est-ce que tu constates, toi aussi, que les entreprises qui misent sur l'alternance recrutent plus facilement sur le long terme ?
C'est plutôt une vérité, je serais tenté de dire. Si, encore faut-il que l'alternance se passe bien. Et il peut aussi y avoir des erreurs de casting. Moi, j'interviens dans une école qui forme justement des alternants sur la partie RH. Il y a des personnes qui n'ont pas trouvé d'alternance. Il y en a d'autres. Ils se sont rendus compte, finalement, c'était pas leur truc. Donc, le pari a été loupé. Comme dans tout recrutement, je serais tenté de dire. Donc, sur le principe, oui. De là, en faire une vérité absolue, universelle, comme toujours, dans les ressources humaines, non.
Merci. Pour conclure le sujet de l'alternance, je dirais que l'alternance est un investissement pour les entreprises et une formidable opportunité pour les jeunes. Lorsqu'elle est bien préparée et bien accompagnée, elle permet souvent de former les collaborateurs dont les entreprises auront besoin demain. Alors, si vous êtes dirigeant et que vous hésitez encore, posez-vous simplement cette question. Qui formera les compétences dont votre entreprise aura besoin demain ?
Merci Emmanuel. On va passer sur un tout autre sujet, mais avant, j'aimerais savoir Agnès, est-ce que selon toi, les entreprises sont suffisamment informées aujourd'hui ?
Pas toujours en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure en répondant à la question de l'intégration des alternants. Il faut considérer qu'il y a certains métiers pénuriques aussi au niveau de l'alternance, comme les métiers ouvriers dans les usines, parce que moi j'ai aussi un parcours d'accompagnement beaucoup en usine, et les entreprises, bon, il y a eu la métallurgie, on a eu besoin beaucoup d'alternants, mais à part les usines, peut-être que dans le tertiaire, il y a beaucoup moins d'informations et on n'a pas une visée forcément de recrutement par la suite.
Merci beaucoup Agnès. Nous allons marquer une courte pause musicale. Et nous nous retrouvons dans quelques instants dans l'émission Au cœur des RH sur IDFM Radio.
Love the way you flirt. It's so obvious but you're so cold. I make it hurt. Like nothing's better than your strong arms. What, what, what you got? What, what, what you got? What, what, what you got? What, what, what you got?
fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, toujours des fleurs, évidemment. Je veux pas me jeter des fleurs, mais je suis pas le pire des amants. D'ailleurs, si je t'en fais une, non, c'est pas que j'ai des sentiments. C'est juste que j'aime ta fleur, je voudrais qu'on passe un bon moment. C'est juste qu'on y met les formes un peu tout le temps. Du coup, ben tu le sais que j'aime tes formes, évidemment. Mais oui, ce que j'aime, c'est qu'elles sont hors normes tout bonnement. Ça vole pas très haut, mais je ne suis qu'un homme, évidemment.
Évidemment.
IDFM Radio, 98 FM.
Nous nous retrouvons pour la suite de notre émission dans Au cœur des RH sur IDFM Radio avec Emmanuel Pignon, Agnès Tilleret et notre invité Jacques-Alexandre Esnard. Je suis Pauline Stamper. Maintenant, je vais vous parler d'IA et de recrutement. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de prendre une vraie place dans le recrutement. Et quand on parle d'IA, donc d'intelligence artificielle, on imagine parfois quelque chose de très technique ou de très éloigné du quotidien. Pourtant, elle est déjà utilisée à plusieurs étapes. Pour rédiger une offre d'emploi, pour rechercher des profils, pour identifier des mots-clés dans des candidatures, préparer des questions d'entretien ou encore aider à structurer une première analyse. Du côté des candidats aussi, les usages se développent. On utilise l'IA aujourd'hui pour retravailler son CV, préparer un entretien ou rédiger une lettre de motivation. Et ce n'est pas forcément un problème. Pour moi, la vraie question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir s'il faut utiliser l'IA ou non, c'est de savoir comment on l'utilise et surtout, quelle place on lui donne. Parce qu'un outil peut faire gagner du temps, mais il ne connaît réellement pas la personne qui se trouve derrière un CV. Il peut repérer des compétences ou des mots-clés, mais il peut aussi passer à côté d'un parcours atypique, d'une reconversion ou de compétences transférables qui ne sont pas formulées exactement comme dans une offre. L'IA peut également se tromper. Et il y a aussi un enjeu de compétences. Utiliser l'IA ne signifie pas simplement lui poser une question et reprendre sa réponse. Il faut savoir formuler sa demande, vérifier ce qui est produit, garder un regard critique et rester capable de prendre une décision. Finalement, l'IA transforme peut-être moins la compétence du recruteur qu'elle ne l'oblige à faire évoluer sa manière de travailler. Alors, concrètement, comment est-ce que cela se passe aujourd'hui sur le terrain ? Jacques-Alexandre, dans ton quotidien de recruteur, est-ce que l'IA fait désormais partie de tes pratiques ? Et concrètement, sur quelles tâches tu l'utilises ?
Alors oui, mais avec parcimonie et j'irai dans ton sens avec du discernement et on va dire l'intelligence sur la façon de l'utiliser. Concrètement, oui, sur tout ce qui est aide rédactionnelle, c'est des choses qui peuvent m'aider sur la rédaction d'offres. Mais je suis extrêmement vigilant parce que j'ai remarqué que avant l'IA, il y avait un travers sur les entreprises qui recrutaient, c'est qu'elles savaient pas faire des bonnes annonces. C'était des fiches de poste copier-coller et donc il y avait rien qui les distinguait. Et donc ma compétence faisait que je faisais des offres d'emploi qui étaient attirantes, qui les faisaient sortir du lot. Le problème avec l'IA, c'est que si tout le monde fait la même chose, on revient sur ce même travers. Donc, extrêmement vigilant pour mettre en avant la spécificité d'une entreprise, pourquoi on irait postuler chez elle plutôt qu'à un autre. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur tout ce qui est tri de CV en CVTech. Alors, auparavant, on utilisait des recherches avec des mots-clés. Pour les experts, on utilisait les recherches bolloréennes, on mettait des mots-clés, voilà, pour opérer. Bon, ce qui marche plutôt pas mal. Maintenant, avec l'IA, on peut directement faire un prompt pour faire des recherches en CVTech. C'est pas encore parfait. Il y a quelques mois, je faisais encore une expérience, je cherchais des CV d'opticiens, CV pénuriques. L'IA m'a transmis des CV de techniciens optiques. Donc, il y avait la racine, mais pas du tout le même métier. Donc, pareil, à prendre avec parcimonie. Ensuite, vous avez aussi l'utilisation de l'IA pour faire des comptes rendus d'entretien. Je pense que ça a beaucoup progressé. Moi, je l'avais utilisé il y a quelques mois, j'étais assez déçu, avec notamment des hallucinations, et j'avais fait l'erreur de pas prendre de notes. Maintenant, je le fais plus parce que quand on prend pas de notes et que le candidat, je me rappelle de cette anecdote, il avait annoncé une entreprise pour laquelle il avait travaillé. Ce n'était pas dans son CV. Je n'ai pas pris de notes. L'IA m'a fait quelque chose de complètement... Enfin, c'était pas du tout l'entreprise qu'il avait évoquée et j'avais du mal à me souvenir ce qu'il m'avait dit. Donc, pareil à prendre parcimonie. Après, concernant les candidats, on va peut-être y revenir, mais il y en a qui utilisent aussi pour faire des CV. Donc, on peut les recevoir. Mais c'est pareil, si c'est pas fait de manière intelligente, ça se détecte tout de suite parce que, voilà, il y a des grosses ficelles et on les reconnaît. Donc, faut être extrêmement vigilant. Et je conclurai sur la question de l'IA en disant que faut être très vigilant sur cet aspect-là. Le recrutement, c'est une rencontre de deux humains qui doivent se dire s'ils ont envie de travailler ensemble. Si on en arrive à des CV faits par l'IA, envoyés par une IA, avec une IA qui fait un entretien pour finalement lui décider si on va travailler ensemble, ça sera d'une tristesse infinie, au-delà de la mort de notre métier. Mais là, bon, je crois qu'il faut mettre la clé sous la porte, ça sera pas possible.
Je te remercie, Jacques-Alexandre. C'est quelque chose, effectivement, que je constate très régulièrement dans mon quotidien de formatrice, puisque j'accompagne des jeunes, justement, dans la rédaction de leur CV. Et aujourd'hui, pour beaucoup, ils ne savent pas faire sans l'IA et ils estiment qu'ils n'ont pas à faire plus que de recopier bêtement ce que l'IA leur dit. D'ailleurs, Emmanuel, du côté des entreprises que tu accompagnes, est-ce que tu vois aussi cette évolution? Est-ce que, selon toi, les dirigeants commencent réellement à utiliser l'IA pour recruter? Et est-ce qu'on est encore dans la découverte ou est-ce que c'est un usage qui est déjà ancré dans les entreprises aujourd'hui?
Alors, je constate une vraie évolution. Je dirais que beaucoup de dirigeants de TPE ou PME restent encore assez prudents. Ils s'intéressent à l'intelligence artificielle, mais ils n'osent pas encore trop l'utiliser. Les freins que je rencontre le plus souvent sont le manque de confiance dans les réponses proposées, les questions de confidentialité, surtout sur les données, et bien sûr la peur du piratage et d'une mauvaise utilisation des informations de l'entreprise. Je leur explique que l'IA est un outil d'aide, pas un outil qui décide à leur place. Elle peut faire gagner du temps pour rédiger une offre d'emploi ou préparer un entretien, mais la décision de recruter doit toujours rester humaine. Au final, l'IA ne remplace pas le recruteur. Elle lui permet surtout d'être plus efficace.
Justement, c'est un peu ma devise que j'ai auprès des jeunes. L'IA peut se tromper, elle peut faire des erreurs. Et justement, c'est là que je trouve le sujet intéressant. Jacques-Alexandre, c'est sur la limite entre le gain de temps et la décision humaine. Est-ce qu'il y a, selon toi, un risque de trop standardiser le recrutement et de passer à côté de certains profils, notamment des parcours atypiques?
Complètement. D'autant plus que il y a différentes façons de recruter. Le modèle un peu classique, diffusion d'annonces, tri de CV, reste un modèle, on va dire, prédominant. Mais pour autant, les canaux de diffusion, sont complètement différents. Je veux prendre un exemple. Là, j'ai une entreprise qui recrute des jardiniers. C'est pas par les offres d'emploi, c'est par Facebook. Voilà. Donc, vous recrutez, je sais pas, des profils dans l'IT. Vous allez faire du sourcing sur LinkedIn, par exemple. Donc, vous avez aussi différentes façons d'appréhender les recrutements. Et après, pour aller dans ton sens, bien évidemment, vous avez des candidatures un peu atypiques. Moi, j'ai l'exemple de deux très bons profils que j'ai fait recruter sur leur renseignement complémentaire, leur expérience de bénévole, absolument pas sur leur expérience professionnelle. Parce que voilà, il y avait des concordances. Et donc ça, je suis pas sûr que l'IA l'aurait détecté. Il aurait été très classique sur profil, diplôme, métier. Là, c'est des subtilités, faut être un peu de la partie pour pouvoir les repérer.
Donc l'enjeu, ce n'est pas de remplacer le recruteur, mais de savoir utiliser l'outil sans déléguer la décision. Et cela suppose aussi de développer de nouvelles compétences chez les professionnels, notamment du recrutement, et de bien les accompagner. Merci Jacques-Alexandre pour ton intervention. Nous allons marquer une courte pause musicale et nous allons nous retrouver dans un instant sur IDFM Radio dans l'émission Au cœur des RH.
Skin, I drown within, silver sweat you shine, infuse with mine, sell my soul tonight, your heat feels different. Kiss that kills the pain, I crave again, now I can't stay clean, you're my darkest dream, I need you one more time. She's running from the light.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Nous sommes sur IDFM Radio dans l'émission Au cœur des RH. Nous allons entamer le dossier de l'émission. Nous allons maintenant parler avec Jacques-Alexandre. Tu vas nous parler avec ton regard de recruteur. Nous allons essayer de comprendre où se situent réellement les difficultés aujourd'hui en matière de recrutement. Est-ce que tu peux te présenter, Jacques-Alexandre, nous dire quel est ton quotidien ?
Alors, Jacques-Alexandre, j'ai 50 ans. J'ai fait toute ma partie de ma carrière professionnelle salariée en associatif et dans la fonction publique. Et puis depuis 6 ans, je me suis mis à mon compte. Je rejoins un réseau de recruteurs indépendants qui s'appelle le Mercato de l'Emploi. Et j'ai notamment la présidence du pôle d'expertise santé sociale médico-sociale, qui est vraiment mon cœur de prédilection en termes de recrutement, même si je recrute aussi pour des TPE, PME sur différents secteurs. Et la particularité aussi, c'est qu'on recrute beaucoup en équipe, donc en binôme, souvent sur différents postes, avec les expériences de chacun, et on a un regard assez fin en général sur les candidats qu'on peut proposer pour les entreprises ou les structures pour lesquelles on recrute.
Jacques-Alexandre, on entend souvent dire qu'il n'y a plus de candidats. Pourtant, les offres d'emploi sont nombreuses et les personnes en recherche d'emploi aussi. Selon toi, où se situe réellement le problème ?
Alors, excuse-moi Emmanuel, mais ça me fait rire parce que, sans vouloir faire de pub, ça c'est une phrase, c'est le point de départ de la création du mercato de l'emploi il y a 10 ans. C'est-à-dire que le dirigeant avait posé la question, mais comment se fait-il qu'il y a du chômage, il y a de l'emploi, on n'arrive pas à recruter ? Et donc, c'était le point de départ. Et donc, la solution apportée, c'était d'allier et des outils technologiques et des recruteurs de proximité avec des structures assez souples. Donc, le problème, il est de longue date. Il est encore là, présent, il l'a été, il le sera encore, parce qu'effectivement, le monde est en perpétuelle évolution, les personnes changent, les structures, les entreprises changent, et donc du coup, les candidats, leurs besoins, leurs aspirations, les besoins des entreprises évoluent aussi, et doivent s'adapter au marché, au bassin de l'emploi. Donc en fait, la vraie question, c'est il y a pas de solution unique. Ça serait, il y a plein de possibilités de recruter suivant son budget, suivant le territoire dans lequel on est. Le principe, c'est pas de se borner sur une technique, une façon de faire, mais plutôt d'adapter, d'utiliser des méthodes différenciées, des stratégies de recrutement différentes suivant les métiers, les situations et les territoires. Tout simplement, on recrute pas de la même façon en banlieue parisienne qu'au fin fond des Vosges.
Oui, tout à fait.
Jacques-Alexandre, je veux te poser une question qui, pour moi, m'a toujours interrogée, notamment quand je faisais des recrutements. C'est la dimension maintenant et les besoins absolus, indépendamment de l'âge, de faire du télétravail. Est-ce que tu constates aussi que cette forte appétence pour le télétravail, pour accepter un job dans tes recrutements ?
Alors, clairement, je l'ai vu, mais ça repart. Enfin, en tout cas, c'est un constat que je peux voir. Alors, il y a eu l'effet Covid. Indéniablement, ça c'est sûr. On s'est mis au télétravail, c'était même après une demande forte. Il y a quand même pas mal d'entreprises qui se sont rendu compte qu'en termes de relationnel, de management, c'était pas évident. Donc, il y a une espèce de phénomène de balancier. Pour certains secteurs, ça peut être une source de négociation. S'il n'y a pas tant de jours de télétravail, j'y vais pas. Au passage, on rappelle que le télétravail, c'est du temps de travail, hein, c'est pas des RTT déguisés. C'est juste pour la petite anecdote. Mais voilà, en tout cas, mon modeste niveau, je vois plutôt un effet de balancier. C'était très très fort à un moment, et là, c'est quand même beaucoup plus édulcoré suivant les secteurs et les entreprises quand même.
Merci beaucoup.
Et selon toi, est-ce que les attentes des candidats ont changé aujourd'hui ?
Encore une fois, il y a eu l'effet Covid. Et il y a des métiers où on n'arrive plus à recruter parce que plus personne n'a envie de les faire. Je prends un exemple là, assez récent. Je devais recruter avec un collègue un technicien CVC, donc qui intervenait en itinérant sur toute la France. Trouvez pas. Les gens ne voulaient pas. Voilà, la vadrouille comme ça, c'est bien compliqué par rapport à sa vie de famille. Donc c'était extrêmement dur à trouver. Et j'avais rencontré une entreprise qui avait des postes un peu similaires. C'était sur l'entretien de feux de signalisation, enfin bref, avec des jeunes qui avaient leur véhicule qui était assez autonome. Et là, je lui posais la question, mais comment vous faites pour recruter ? Il dit, bah en fait, on a admis que ça ne pouvait être que des jeunes qui n'étaient pas en couple et que dès qu'ils étaient en couple, c'était fini. ils sortaient du jeu parce que c'est, ils se faisaient un petit peu d'argent pendant 2-3 ans et ils avaient accepté ce turnover. Donc je trouve ça très intelligent. Mais voilà, c'était une stratégie pour cette entreprise. Donc voilà, il y a des métiers effectivement qui deviennent très compliqués parce que les gens n'ont plus envie de ça.
Et selon toi, les entreprises recrutent-elles différemment aujourd'hui ?
Ça dépend. Vraiment, c'est toujours compliqué de faire une généralité. Ce qui est sûr, c'est que vous avez de nouvelles stratégies de recrutement. J'ai notamment je connais une entreprise qui recrute sur le domaine du jeu vidéo. Donc là, ça va être sur des, par exemple, des jeunes où on sait que le CV va pas passer. Ils font des rencontres avec des dirigeants d'entreprise et en les faisant jouer ensemble, ils révèlent les soft skills, les savoir-être et ça peut enclencher des choses. Donc voilà, ça peut être une façon de faire adaptée pour certaines entreprises et pas pour d'autres. Donc vous avez toujours le classique, les forums emploi, les job dating, les annonces. Mais après voilà, encore une fois, suivant ce que vous allez recruter votre territoire, vous allez avoir des façons de recruter qui sont différentes. Donc c'est plutôt une adaptation plutôt qu'une généralité. Tout le monde fait comme ci, tout le monde fait comme ça.
Quelles sont les erreurs que tu observes le plus souvent chez les entreprises lorsqu'elles recrutent ? Est-ce un problème de méthode, de délai, de communication ou parfois simplement d'image d'employeur ?
Alors concrètement, la plus grosse erreur, enfin que je trouve, hein, c'est de ne pas définir le persona. Alors le persona, peut-être pour expliquer ce que c'est, le persona, ça vient c'est un mot de marketing qui est employé pour la cible de client. Alors excusez-moi ces termes, mais je veux bien illustrer, ça va parler à tout le monde. On parlait de persona, on va dire, sur ma génération, quand c'était la publicité à la télé pour les managers de plus de 50 ans. Alors, ça paraît affreux de dire ces mots-là, mais au moins, ça parle. Voilà, on sait ce que c'est un persona. Eh bien, pour le recrutement, c'est pareil. Au-delà de définir le mouton à cinq pattes, hein, la personne qui a Bac plus 18, 10 ans d'expérience d'encadrement, mais qui va pas être payée trop cher, hein, donc qui n'existe pas, la vraie question à se poser, c'est qui va être intéressé par le poste dans ces conditions et dans cette structure-là. Et tant que les entreprises ne se posent pas ces questions-là, ils vont devoir du mal à cibler comment attirer ces personnes-là. Une fois que vous avez défini votre persona, ben vous allez pouvoir faire des annonces en corrélation. Je vous racontais tout à l'heure les jeunes dans cette entreprise. Bon, ben, le persona, il est assez clair. C'est des jeunes qui sont pas en couple, qui vont gagner un peu d'argent et qui vont être dégourdis et autonomes. Ben, j'imagine que leurs offres d'emploi étaient tournées pour séduire ces jeunes-là. Donc ça, c'est la plus grosse erreur. Et la seconde erreur c'est terrible, c'est le onboarding qui est complètement raté, qui est pas adapté. Et ça, quelles que soient les tailles. Moi, je me suis vu disputer des clients en disant « Non, mais c'est pas possible, vous pouvez pas ne pas accueillir quelqu'un qui vient dans votre entreprise. La personne va partir. Et si on m'écoute pas, 9 fois sur 10, la personne n'est pas. »
Non, tout à fait. Jacques-Alexandre, qu'est-ce qui touche le plus dans ce métier ?
Alors, ce que j'aime bien dans ce métier de recrutement, c'est, je le dis souvent en rigolant, je vous estime un petit peu comme les Tinder du recrutement. C'est-à-dire que pour moi, le recrutement, ça s'apparente aussi à une rencontre amoureuse. Et ce que j'adore, mais vraiment par-dessus tout, c'est quand l'entreprise me dit « Mais comment vous avez fait pour trouver cette personne ? C'est exactement ce que je recherche, on a les mêmes valeurs, on a envie de bosser ensemble. » Et de l'autre côté, le candidat qui me dit « Mais c'est exactement l'entreprise pour laquelle j'ai envie de travailler, ça matche avec mon supérieur, on va bien s'entendre, on va passer du bon moment ensemble, bien travailler ensemble. » Ça, pour moi, c'est l'apothéose, c'est vraiment la joie de dire « On a connecté des gens et ils vont travailler ensemble. »
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Merci Jacques-Alexandre, nous t'avons découvert d'un point de vue de ton emploi, le côté un peu théorique, mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout l'expérience terrain. Après le décryptage que tu viens de nous faire de ton métier, on va maintenant parler un peu plus de ton parcours, de la réalité du métier, et j'ai quelques petites questions à te poser. Est-ce que déjà tu pourrais me dire à quel film tu identifierais ton métier aujourd'hui ?
Eh ben, je vais plutôt te dire un métier sur lequel justement j'identifie pas. Mon métier, c'est On the Air, avec c'était un film sur le recrutement RH qui était fait par vidéo. Enfin, il virait les personnes comme ça. Enfin, c'était complètement inhumain. Et du coup, ce film, je l'avais trouvé intéressant. Mais justement, c'est surtout pas ce type de film auquel je m'identifie.
C'est justement tout ce qu'il faut éviter dans les pratiques de recruteur. Du coup, selon toi.
En tout cas, c'est de la relation humaine, donc oui, c'est de l'humain, c'est pas de l'abattage, surtout pas.
Bon, merci pour ta réponse honnête.
Jacques-Alexandre, comment devient-on recruteur au Mercato de l'Emploi ?
Alors c'est très simple. Vous pouvez soit répondre à une annonce, soit aller sur le site et dire que vous voulez intégrer le réseau. Et vous avez forcément quelqu'un qui vous coopte. Il y a une espèce de parrainage pour intégrer le réseau, puisque à la fois on va vous former, mais vous allez développer des compétences en termes de recrutement, mais aussi en termes de pilotage d'entreprise, puisque vous gérez votre propre entreprise, votre propre cabinet, en lien avec le mercato de l'emploi. Donc, on a des parcours assez différents. Il y a des gens qui ont mon âge, voilà, qui ont envie d'indépendance et qui s'appuient sur leur carrière professionnelle. Vous avez des personnes plus jeunes qui se lancent. Il y en a qui sont issus de filières RH, d'autres comme moi, pas de filière RH, mais de filières avec une certaine technicité, alors que ça soit du BTP, de l'industrie, personnellement, moi, tout ce qui est sanitaire et médico-social. Et à partir de là, vous allez pouvoir, vous allez être formé, vous allez avoir un mentor qui va vous suivre et vous allez pouvoir intégrer le réseau et développer votre activité.
Ok, super. Et est-ce qu'il y a un recrutement qui t'a particulièrement marqué ?
J'en ai plusieurs. Tu veux un recrutement réussi, un recrutement qui n'a pas réussi ?
Comme tu veux. Un recrutement qui t'a profondément marqué.
Je vais vous en raconter un qui n'a pas réussi parce que je trouve l'anecdote assez drôle et qui montre que le recrutement, on peut mettre toutes les techniques que l'on veut, ça reste de l'humain. À l'époque, je recrutais un jardinier. Alors, jardinier, ce sont des métiers très compliqués à recruter, hein, dans tout ce qui est espace vert, paysagiste. Pourquoi ? Parce que vous avez pas forcément beaucoup de personnes diplômées, que les personnes diplômées, elles, bah, si elles sont bien, elles se mettent à leur compte. Et vous avez beaucoup de personnes qui ont envie de changer de métier, qui disent « tiens, je veux être jardinier » parce que ils ont tendu la pelouse dans leur jardin. Sauf qu'après, quand c'est l'hiver ou quand il fait chaud et que c'est tous les jours, ça devient compliqué. Bref. Difficile à trouver, et donc j'avais pour mission de recruter un jardinier. Donc l'entreprise me dit, bon écoutez, peu importe s'il n'est pas diplômé, mais je veux un passionné, quelqu'un qui aime les plantes, qui aime bien, et s'il n'est pas très technique, on va le former. Je trouve un jeune de 30 ans, vraiment le gars, une perle, on voyait qu'il aimait bien les plantes, qu'il aimait bien, bon, je le présente à l'entreprise, ça se passe très bien, il le recrute, je fais le suivi d'intégration au bout de 15 jours, et l'entreprise me dit, écoutez, il manque de technicité, mais il apprend très vite, il est vraiment bien, c'est un jeune qui est super, il est curieux, il s'intègre bien dans les équipes, formidables. Il me rappelle la semaine d'après, il me dit, bon, bah écoutez, Jacques-Alexandre, vous allez pouvoir recruter un nouveau jardinier. Je dis, ah bon, vous avez d'autres besoins, c'est très bien. Il me dit, non, en fait, il est parti. Je dis, comment ça, il est parti ? Je dis, il y a une semaine, tous les voyants étaient au vert, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, il me montre un SMS, je vous jure que c'est vrai. Le SMS, c'était le jeune en question qui écrit au patron, qui dit, écoutez, monsieur, merci beaucoup de m'avoir donné ma chance. J'ai adoré travailler pour votre entreprise, c'était formidable, j'ai beaucoup appris. Mais ma petite copine m'a largué, je me sens vraiment pas bien, je retourne chez mon père à Rouen, je vous enverrai les vêtements par la poste. Donc là, je vois ça, j'explose de rire avec l'entreprise. Je dis, écoutez, et là, je dis un peu en provoquant, mais en rigolant, pour me sortir de la situation. Je dis, écoutez, vous savez, j'ai absolument pas le droit de poser en question comment ça se passe au lit avec sa petite copine. C'est illégal, je n'ai pas le droit de poser cette question. Et du coup, ça l'a fait rire, parce que, bah, évidemment, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont imprévisibles, c'est la vie, et c'est comme ça. Donc voilà, ça, elle m'avait fait rigoler, cette anecdote, donc... Je vous la livre. Cadeau.
Merci à toi. Emmanuel, il me semble que tu avais encore une question.
Oui, donc du coup, je pense pour conclure, si tu devais donner un seul conseil à nos auditeurs aujourd'hui, quel serait-il ? Un conseil pour les entreprises qui recrutent, par exemple, et un autre pour les candidats qui nous écoutent ?
Pour les entreprises, je leur dirais vraiment pensez bien à votre besoin. Faites pas du copier-coller parce que quelqu'un est parti. Enfin, réfléchissez bien à ça parce qu'en fonction de ça, vos stratégies, vos recherches seront différentes. Pour les candidats, n'allez pas en terrain conquis, soyez-vous, préparez quand même les entretiens, renseignez-vous sur l'entreprise, sur ce qu'elle fait, c'est quand même la base de la base, et soyez-vous. De toute façon, dites-vous bien que l'entreprise, le recruteur, l'employeur, tout ce que vous voulez, il attend qu'une seule chose, c'est d'être rassuré, parce qu'il fait un choix. S'il vous reçoit en entretien, il n'a pas de temps à perdre, donc s'il vous reçoit, c'est que vous avez un minimum d'intérêt. Rassurez-le sur votre capacité de vous adapter, de vous former, d'être opérationnel sur le poste. C'est vraiment ça qui est important. Et à la fin, posez-vous la question, est-ce que vous avez envie de travailler ensemble ? Parce que finalement, à la fin du fin, c'est la seule question qui est vraiment de l'importance.
Tout à fait.
Merci à toi, Jacques-Alexandre. On va marquer une courte pause musicale et à l'issue, nous reviendrons et Agnès nous parlera de l'optimisation du CV. On se retrouve dans quelques instants sur IDFM Radio dans l'émission Au cœur des RH.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Nous nous retrouvons dans l'émission Au cœur des RH sur IDFM Radio. Nous allons reprendre avec notre boîte à outils. Agnès, peux-tu nous donner des conseils concrets et immédiats applicables aujourd'hui ? Parle-nous des CV et de la visibilité des sites d'emploi.
Merci Pauline. Moi, je vais vous parler d'un obstacle invisible avant qu'un recruteur ne lise votre CV. Il passe souvent par un logiciel de tri, comme on en a parlé, les fameux ATS qui scannent le texte et éliminent une partie des candidatures. Mais il y a quand même pas mal de choses que les gens ne savent pas, notamment dans les CV qui sont hyper travaillés, très très beaux visuellement, avec beaucoup d'infographies. Il vaut mieux éviter les tableaux, les colonnes multiples, tous ces encadrés graphiques, parce que beaucoup d'ATS les lisent pas ou les lisent mal et votre CV peut arriver tronqué ou dans le désordre côté recruteur. Et pour adapter rapidement un CV à chaque annonce, il y a des prompts qui sont conseillés. Le plus rapide, c'est que vous collez carrément votre annonce et votre CV actuel dans l'IA. Bon, pour ma part, je conseille Claude. Et vous écrivez, compare mon CV avec cette annonce, identifie les mots-clés et compétences qui manquent et propose-moi 3 reformulations pour les intégrer sans mentir sur mon expérience. Et ça vous fait gagner du temps, ça vous évite d'oublier des mots et surtout, ça permet de rester honnête par rapport au recruteur en adaptant la formulation, jamais la réalité de son parcours.
Merci beaucoup Agnès. Juste petite question très rapide, Jacques-Alexandre. Aujourd'hui, un CV d'une page, c'est toujours la norme ou...
Personnellement, je préfère. 2 pages, c'est beaucoup long, enfin beaucoup trop long. Ou alors vraiment pour un cadre expérimenté. Mais normalement, vous pouvez très bien vous débrouiller avec un CV efficace et les conseils qu'on vous a donnés, CV une page, ça devrait suffire.
Et donc, tu rejoins les conseils d'Agnès ou une petite préconisation supplémentaire ?
Non, complètement. Le raccord mot-clé. Alors après, grande vigilance. Moi, j'ai vu des CV qui étaient presque trop beaux pour être vrais. En creusant un peu derrière, on voit que c'est pas bon. Donc, faut que ça reflète la réalité avec les bons mots-clés.
Effectivement, je pense que ici, tous les 4 étant du milieu des RH, on sera complètement d'accord sur cette thématique.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
IDFM Radio, 98FM.
Recruter est une chose. Fidéliser, préserver l'engagement et éviter que les situations de souffrance ne s'installent en est une autre. Agnès, peux-tu nous donner tes préconisations sur le sujet ?
Merci beaucoup. En fait, nous sommes, je rappelle, le 1er septembre et une nouvelle règle est en vigueur depuis aujourd'hui. Un arrêt maladie prescrit par votre médecin ne peut plus dépasser 31 jours, une prolongation est limitée à 62 jours. La mesure vise une facture, bien évidemment, qui s'est emballée. 18 milliards d'euros par an par indemnité journalière, 45% de plus qu'en 2019. 42% des salariés du privé ont eu au moins un arrêt maladie cette année, presque 1 sur 2. Et la question que personne ne pose vraiment, pourquoi autant de gens arrivent-ils au point de rupture ? Cette réforme a un angle mort majeur, elle additionne tout sans distinguer ce qui compose l'absentéisme. Alors imaginez un médecin qui mesurerait votre cholestérol total sans jamais distinguer le bon du mauvais et qui déciderait d'un traitement sur cette seule base. Ce n'est pas de la médecine, c'est de la comptabilité. C'est exactement ce qu'on fait avec l'absentéisme aujourd'hui. Il en existe deux. Et ils n'ont rien à voir. Le premier, l'absentéisme incompressible. Vous avez la grippe, vous vous êtes fait une fracture, vous avez eu un cancer diagnostiqué à 52 ans. Ce sont des absentéismes légitimes, inévitables. Vouloir le réduire par des mesures administratives, c'est complètement indécent. Le second, l'absentéisme signal, le burn-out après 18 mois de surcharge, la dépression après un manager toxique, le dos chronique d'un poste jamais adapté, comme on peut le voir dans certains sites de production, ces absences-là parlent et elles sont en partie évitables. Le vrai problème n'est pas que les Français s'arrêtent de trop, c'est que trop d'entre eux n'auraient pas dû en arriver là. Et alors, actuellement, il y a un baromètre dont on parle beaucoup, c'est le baromètre 2026 Malakoff Humaniste, qui parle de 3,8 millions de salariés analysés et qui vient confirmer la tendance du taux d'absentéisme qui atteint 4,3% en 2025, soit une hausse de 25,5% depuis 2018. Près d'un million de salariés en arrêt sur l'année. Les arrêts longs plus de 60 jours ne représentent que 9,4% du nombre total d'arrêts, mais ils concentrent 63,8% de toutes les journées d'absence. Et derrière ces arrêts longs, une cause domine toutes les autres. Ce sont les pathologies mentales qui représentent 37,8% des arrêts de plus de 30 jours devant la rhumatologie et devant les cancers. Et cela n'est pas de l'absentéisme incompressible, c'est du mauvais cholestérol et on ne le traite pas. Les managers, ceux censés tenir les équipes, affichent désormais 53% d'arrêts et devinez, les 18-30 ans, 49%. Ce n'est pas du désengagement, c'est de la détresse. Emmanuel, remarques-tu également chez tes clients un rajeunissement de l'absentéisme le long de ces dernières années ?
Oui, clairement, c'est une tendance que j'observe de plus en plus. D'ailleurs, ces longs arrêts concernent de plus en plus des salariés jeunes. On retrouve souvent une surcharge mentale. Les équipes sont réduites, souvent. Chacun cumule plusieurs missions. Et lorsque les recrutements sont gelés ou difficiles, la charge de travail se répartit sur les autres salariés qui sont en place. Donc, à terme, cet équilibre devient difficile à tenir et peut conduire à un véritable épuisement.
C'est tout à fait exact. C'est ce que je remarque également dans ma pratique quand j'interviens sur les risques psychosociaux. Un burn-out n'est jamais un événement soudain. C'est une longue succession de silences et d'alertes ignorées, de « ça va aller », répéter jusqu'à ce que ça n'aille plus. Et la responsabilité est souvent collective des entreprises qui portent leur part, charges excessives, objectifs irréalistes et des salariés qui normalisent la fatigue permanente. L'anxiété du dimanche soir, en fait. Et plafonner les arrêts ne change rien à ça. On soigne le taux de cholestérol total, mais les artères, elles, continuent à se boucher. Il y a une conséquence dont on ne parle jamais, plus lente, plus sourde. Un salarié s'effondre, ses collègues absorbent la charge, s'épuisent à leur tour. Le recrutement devient urgent, bâclé. Les nouveaux repartent vite. Le cycle recommence, un peu plus profond à chaque fois. Parce que l'absentéisme élevé est aussi l'attractivité des entreprises. Et ça, il faut pas le négliger. 8 candidats sur 10 se disent sensibles à la marque employeur avant de postuler. Et plus d'un recruteur sur 2 est aujourd'hui jugé difficile. Les entreprises qui auraient le plus besoin de recruter et qui sont en pénurie sont précisément celles que les meilleurs profils évitent. L'absentéisme d'aujourd'hui est le problème de recrutement de demain. Mais si la seule réponse est de raccourcir les arrêts sans distinguer le bon absentéisme du mauvais, sans toucher à ce qui produit l'épuisement, on ne résout rien. On déplace le problème du salarié arrêté vers celui qui reste et qui finalement va compenser. L'absentéisme, n'oublions pas, c'est un thermomètre. On peut décider de le casser, la fièvre, elle va rester. Et la vraie question à se poser, mais celle qu'on continue à éviter, qu'est-ce qu'on est prêt concrètement à changer ?
Merci Agnès. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Attention, par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mettre son profil LinkedIn à jour, c'est juste essentiel aujourd'hui pour le recrutement. Mon astuce de cette semaine, ce serait aller sur LinkedIn et regarder votre titre de profil. S'il indique uniquement votre poste actuel ou en recherche d'emploi, modifiez-le. Ajoutez 3 mots-clés qui correspondent réellement à votre métier et à vos compétences. Ce sont ces mots que les recruteurs peuvent utiliser lorsqu'ils cherchent un profil. 5 minutes aujourd'hui peuvent déjà améliorer votre visibilité de demain. Emmanuel, petit mot agenda, est-ce que tu as quelque chose à nous suggérer pour les jours à venir ?
Alors pour les personnes en recherche d'emploi ou en reconversion, la rentrée est une période très dynamique. Pensez à consulter les forums de l'emploi qui sont organisés par France Travail et sur les collectivités locales.
Agnès ?
Si vous êtes dirigeant ou entrepreneur, ne manquez surtout pas le salon Effervescence 93 le 1er octobre qui se situera à Épinay-sur-Seine, dans le 93 notamment. Un événement idéal pour développer votre réseau et découvrir de nouveaux partenaires.
Si vous aviez un petit mot chacun à nous donner avant cette fin d'émission, Jacques-Alexandre, notre invité.
Mais écoutez, merci, c'était très agréable en ce bon mois de septembre à la rentrée. Une émission dynamique et joviale. Merci à vous.
Merci à toi, Emmanuel.
Je dirais que derrière chaque recrutement, il y a avant tout une rencontre humaine. Les compétences s'apprennent, mais les valeurs, l'engagement et l'envie de construire ensemble font souvent toute la différence.
Agnès ?
Un recrutement, c'est ni plus ni moins un acte de vente bilatéral. Vous vendez votre valeur ajoutée pour vous différencier des autres candidats et l'employeur achète un investissement et une solution à ses besoins.
Merci à vous pour vos interventions et je clôturerai en vous disant, on a parlé de l'IA, l'IA et le recrutement. L'IA sera le prochain sujet de notre émission. Nous vous retrouvons très prochainement dans Au cœur des RH sur IDFM Radio. Bonne soirée, au revoir.